côte italienne. Tout le ciel est voilé de nuages. Le jour naissant, descend, grisaille, à travers ces brumes remontées dans la nuit, et qui étendent leurs murailles sombres, plus épaisses par places, presque blanches en d'autres, entre l'aurore et nous. On craint vaguement, avec un serrement de cœur, que jusqu'au soir elle n'endeuille l'espace, et on lève sans cesse les yeux vers elle, avec une angoisse d'impatience, une sorte de muette prière. Mais on devine, au train éclair qui sépare leur masse plus opaque, que l'astre au-dessus d'elles illumine le ciel bleu et leur neigeuse surface. On espère, on attend. Peu à peu, elles pâlissent, s'amincissent, semblent fondre. On sent que le soleil les brûle, les ronge, les écrase de toutes ses ardeurs, et que l'immense plafond de nuée, trop faible, cède, plie, se fend et craque sous une énorme pesée de lumière. Un point s'allume au milieu d'elle, une lueur y brille, une brèche est faite, un rayon glisse, oblique et long, et tombe en s'élargissant. On dirait que le feu prend à ce trou du ciel. C'est une bouche qui s'ouvre, grandit, s'embrase, avec des lèvres incendiées, et crache sur les flots une cascade de clarté dorée. Alors, en mille endroits en même temps, la voûte des ombres se brise, s'effondre, laisse par mille plaies passer des flèches brillantes, qui se répandent en pluie sur l'eau, en semant par l'horizon la radieuse gaieté du soleil. L'air est rafraîchi par la nuit, un frisson de vent, rien qu'un frisson, caresse la mer, fait à peine frémir, en la chatouillant, sa peau bleue et moirée. Devant nous, sur un cône rocheux, large et haut, qui semble sortir des flots et s'appuie contre la côte, grimpe une ville pointue, peinte en rose par les hommes, comme l'horizon par l'aurore victorieuse. Quelques maisons bleues y font des taches charmantes. On dirait le séjour choisi par une princesse des mille et une nuits. C'est Port Maurice. Quand on l'a vu ainsi, il n'y faut point aborder. J'y suis descendu pourtant. Dedans, une ruine. Les maisons semblent émiettées le long des rues. Tout un côté de la cité, écroulé vers la rive, peut-être à la suite du tremblement de terre, étage de haut en bas du rocher qui les porte, des murs écrêtés et fendus, des moitiés de vieilles demeures plâtreuses, ouvertes au vent du large. Et la peinture, si jolie de loin quand elle s'harmonisait avec le jour naissant, n'est plus sur ces débris, sur ces taudis, qu'un affreux badigeonnage d'étain, terni par le soleil et lavé par les pluies. Et le long des ruelles, couloirs tortueux, pleins de pierres et de poussière, une odeur flotte, innommable, mais explicable par le pied des murs, si puissante, si tenace, si pénétrante, que je retourne à bord du yacht, les yeux salis et le cœur soulevé. Cette ville, pourtant, est un chef-lieu de province. On dirait, en mettant le pied sur cette terre italienne, un drapeau de misère. En face, de l'autre côté du même golfe, Oneglia, très sale aussi, très puante, bien que d'aspect moins sinistrement pauvre et plus vivant. Sous la porte cochère du Collège Royal, ouverte à deux battants en séjour de vacances, une vieille femme rapièce un matelas sordide. Nous entrons dans le port de Savone. Un groupe d'immenses cheminées d'usines et de fonderies qu'alimentent chaque jour quatre ou cinq grands vapeurs anglais chargés de charbon, projettent dans le ciel, par leurs bouches géantes, des vomissements tortueux de fumée, retombés aussitôt sur la ville en une pluie noire de suie, que la brise déplace de quartier en quartier comme une neige d'enfer. N'allez point dans ce port, canotiers caboteurs qui aimez garder sans tache les voiles blanches de vos petits navires. Savone est gentille pourtant, bien italienne, avec des rues étroites, amusantes, pleines de marchands agités, de fruits étalés par terre, de tomates écarlates, de courges rondes, de raisins noirs ou jaunes et transparents, comme s'ils avaient bu de la lumière, de salades vertes épluchées à la hâte, et dont les feuilles semées à foison sur les pavés ont l'air d'un envahissement de la ville par les jardins. En revenant à bord du yacht, j'aperçois tout à coup, le long du quai, dans une balancelle napolitaine, sur une immense table tenant tout le pont, quelque chose d'étrange comme un festin d'assassins. Sanglant, d'un rouge de meurtre, couvrant le bateau entier d'une couleur, et au premier coup d'œil, d'une émotion de tuerie, de massacre, de viande déchiquetée, s'étale devant 30 matelots aux figures brunes, 60 ou 100 quartiers de pastèques pourpres éventrées. On dirait que ces hommes joyeux mangent à pleines dents de la bête saignante, comme les fauves dans les cages. C'est une fête, on a invité les équipages voisins, on est content. Les bonnets rouges sur les têtes sont moins rouges que la chair du fruit. Quand la nuit fut tout à fait tombée, je retournai dans la ville. Un bruit de musique m'attirant me la fit traverser tout entière. Je trouvai une avenue que suivaient par groupe la bourgeoisie et le peuple, lentement, allant vers ce concert du soir que lui donne 2 ou 3 fois par semaine l'orchestre municipal. Ces orchestres, sur cette terre musicienne, valent, même dans les petites villes, ceux de nos bons théâtres. Je me rappelais celui que j'avais entendu du pont de mon bateau l'autre nuit, et dont le souvenir me restait, comme celui d'une des plus douces caresses qu'une sensation m'ait jamais donnée. L'avenue aboutissait à une place qui allait se perdre sur la plage, et là, dans l'ombre à peine éclairée par les taches espacées et jaunes des becs de gaz, cet orchestre jouait je ne sais trop quoi au bord des flots. Les vagues un peu lourdes, bien que le vent du large fût tout à fait tombé, traînaient le long du rivage leur bruit monotone et régulier qui rythmait le chant vif des instruments. Et le firmament violet, d'un violet presque luisant, doré par une infinie poussière d'astres, laissait tomber sur nous une nuit sombre et légère. Elle couvrait de ses ténèbres transparentes la foule silencieuse, à peine chuchotante, marchant à pas lents autour du cercle des musiciens, ou bien assise sur les bancs de la promenade, sur de grosses pierres abandonnées le long de la grève, sur d'énormes poutres étalées à terre, auprès de la haute carcasse de bois, aux côtes encore entr'ouvertes d'un grand navire en construction. Je ne sais pas si les femmes de Savone sont jolies, mais je sais qu'elles se promènent presque toutes nu-tête le soir, et qu'elles ont toutes un éventail à la main. C'était charmant, ce muet battement d'ailes prisonnières, d'ailes blanches, tachetées ou noires, entrevues, frémissantes comme de gros papillons de nuit tenus entre des doigts. On retrouvait, à chaque femme rencontrée, dans chaque groupe errant ou reposé, ce volettement captif, ce vague effort pour s'envoler des feuilles balancées qui semblaient rafraîchir l'air du soir, y mêler quelque chose de coquet, de féminin, de doux à respirer pour une poitrine d'homme. Et voilà qu'au milieu de cette palpitation d'éventail et de toutes ces chevelures nues autour de moi, je me mis à rêver niaisement, comme en des souvenirs de contes de fées, comme je faisais au collège dans le dortoir glacé avant de m'endormir, en songeant aux romans dévorés en cachette sous le couvercle du pupitre. Parfois ainsi, au fond de mon cœur vieilli, empoisonné d'incrédulité, se réveille pendant quelques instants mon petit cœur naïf de jeune garçon. Une des plus belles choses qu'on puisse voir au monde, Gênes de la haute mer. Au fond du golfe, la ville se soulève comme si elle sortait des flots au pied de la montagne. le long des deux côtes qui s'arrondissent autour d'elle pour l'enfermer, la protéger et la caresser, dirait-on. 15 petites cités, des voisines, des vassales, des servantes, reflètent et baignent dans l'eau leur maison claire. Ce sont, à gauche de leur grande patronne, Cogoletto, Aranzano, Voltri, Pra, Pelli, Sestri Ponente, San Pier d'Arena. Et à droite, Sturla, Quarto, Quinto, Nervi, Boliasco, Sori, Recco, Camogli. Dernière tache blanche sur le cap Portofino qui ferme le golfe au sud-est. Gênes, au-dessus de son port immense, se dresse sur les premiers mamelons des Alpes qui s'élèvent par derrière, courbés et s'allongeant en une muraille géante. Sur le môle, une tour très haute et carrée, le phare appelé la lanterne, a l'air d'une chandelle démesurée. On pénètre dans l'avant-port, énorme bassin admirablement abrité, où circule, cherchant pratique, une flotte de remorqueurs. Puis, après avoir contourné la jetée est, c'est le port lui-même, plein d'un peuple de navires, de ces jolis navires du Midi et de l'Orient, aux nuances charmantes, tartanes, balancelles, mahones, peints, voilés et matés, avec une fantaisie imprévue. Porteurs de madones bleues et dorées, de saints debout sur la proue et d'animaux bizarres, qui sont aussi des protecteurs sacrés. Toute cette flotte, à bonne vierge et à talisman, est alignée le long des quais, tournant vers le centre des bassins, ses nez inégaux et pointus. Puis apparaissent, classés par compagnie, de puissants vapeurs en fer, étroits et hauts, avec des formes colossales et fines. Il y a encore au milieu de ces pèlerins de la mer des navires tout blancs, de grands trois-mâts ou des briques, vêtus comme les Arabes d'une robe éclatante sur qui glisse le soleil. Si rien n'est plus joli que l'entrée de ce port, rien n'est plus sale que l'entrée de cette ville. Le boulevard du quai est un marais d'ordures, et les rues étroites, originales, enfermées comme des corridors entre deux lignes tortueuses de maisons démesurément hautes, soulèvent incessamment le cœur par leurs pestilentielles émanations. On éprouve à Gênes ce qu'on éprouve à Florence et encore plus à Venise, l'impression d'une très aristocratique cité tombée au pouvoir d'une populace. Ici surgit la pensée des rudes seigneurs qui se battaient ou trafiquaient sur la mer. Puis, avec l'argent de leur conquête, de leur capture ou de leur commerce, se faisaient construire les étonnants palais de marbre dont les rues principales sont encore bordées. Quand on pénètre dans ces demeures magnifiques, odieusement peinturlurées par les descendants de ces grands citoyens de la plus fière des républiques, et qu'on compare le style, les cours, les jardins, les portiques, les galeries intérieures, toute la décoration et superbe ordonnance, avec l'opulente barbarie des plus beaux hôtels du Paris moderne, avec ces palais de millionnaires qui ne savent toucher qu'à l'argent, qui sont impuissants à concevoir, à désirer une belle chose nouvelle et à la faire naître avec leur or, on comprend alors que la vraie distinction de l'intelligence, que le sens de la beauté rare des moindres formes, de la perfection des proportions et des lignes, ont disparu de notre société démocratisée, mélange de riches financiers sans goût et de parvenus sans tradition. C'est même une observation curieuse à faire, celle de la banalité de l'hôtel moderne. Entrez dans les vieux palais de Gênes, vous y verrez une succession de cours d'honneur à galeries et à colonnades et d'escaliers de marbre, incroyablement beaux, tous différemment dessinés et conçus par de vrais artistes, pour des hommes au regard instruit et difficile. Entrez dans les anciens châteaux de France, vous y trouverez les mêmes efforts vers l'incessante rénovation du style et de l'ornement. Entrez ensuite dans les plus riches demeures du Paris actuel. Vous y admirerez de curieux objets anciens, soigneusement catalogués, étiquetés, exposés sous verre, suivant leur valeur connue, cotés, affirmés par des experts. Mais pas une fois, vous ne resterez surpris par l'originale et neuve invention des différentes parties de la demeure elle-même. L'architecte est chargé de construire une belle maison de plusieurs millions et touche 5 ou 10% sur les dépenses, selon la quantité de travail artiste qu'il doit introduire dans son plan. Le tapissier, à des conditions différentes, est chargé de la décorer. Comme ces industriels n'ignorent pas l'incompétence native de leurs clients et ne se hasarderaient point à leur proposer de l'inconnu, ils se contentent de recommencer à peu près ce qu'ils ont déjà fait pour d'autres. Quand on a visité dans Gênes ces antiques et nobles demeures, admiré quelques tableaux, et surtout 3 merveilles de ce chef de vrier qu'on nomme Van Dyck, il ne reste plus à voir que le Campo Santo, cimetière moderne, musée de sculptures funèbres le plus bizarre, le plus surprenant, le plus macabre et le plus comique peut-être qui soit au monde. Tout le long d'un immense quadrilatère de galeries, cloître géant ouvert sur un préau que les tombes des pauvres couvrent d'une neige de plaques blanches, on défile dans une procession de bourgeois de marbre qui pleurent leur mort. Quel mystère ! L'exécution de ces personnages atteste un métier remarquable. Un vrai talent d'ouvrier d'art. La nature des robes, des vestes, des pantalons y apparaît par des procédés de facture stupéfiants. J'y vis une toilette de moire indiquée en cassure nette de l'étoffe d'une incroyable vraisemblance. Et rien n'est plus irrésistiblement grotesque, monstrueusement ordinaire, indignement commun, que ces gens qui pleurent des parents aimés. À qui la faute ? Au sculpteur, qui n'a vu dans la physionomie de ses modèles que la vulgarité du bourgeois moderne, qui ne sait plus y trouver ce reflet supérieur d'humanité entrevu si bien par les peintres flamands, quand ils exprimaient, en maîtres artistes, les types les plus populaires et les plus laids de leur race. Aux bourgeois, peut-être que la basse civilisation démocratique à rouler comme le galet des mers, en rongeant, en effaçant son caractère distinctif, et qui a perdu dans ce frottement les derniers signes d'originalité dont jadis chaque classe sociale semblait dotée par la nature. Les Génois paraissent très fiers de ce musée surprenant qui désoriente le jugement. Depuis le port de Gênes jusqu'à la pointe de Portofino, c'est un chapelet de ville, un égrènement de maisons sur les plages, entre le bleu de la mer et le vert de la montagne. La brise du sud-est nous force à louvoyer. Elle est faible, mais à souffle brusque qui incline le yacht, le lance tout à coup en avant, ainsi qu'un cheval s'emporte, avec 2 bourrelets d'écume qui bouillonnent à la proue comme une bave de bête marine. Puis le vent cesse et le bateau se calme, reprend sa petite route tranquille, qui, suivant les bordées, tantôt l'éloigne, tantôt le rapproche de la côte italienne. Vers 2 heures, le patron, qui consultait l'horizon avec les jumelles, pour reconnaître à la voilure portée et aux armures prises par les bâtiments en vue, la force et la direction des courants d'air, en ces parages où chaque golfe donne un vent tempétueux ou léger, où les changements de temps sont rapides comme une attaque de nerfs de femme, me dit brusquement « Monsieur, faut amener la flèche. Les 2 briques goélettes qui sont devant nous viennent de serrer leur voile haute. Ça souffle là-bas. » L'ordre fut donné, et la longue toile gonflée descendit du sommet du mât, glissa, pendante et flasque, palpitante encore comme un oiseau qu'on tue. Le long de la misaine, qui commençait à pressentir la rafale annoncée et proche. Il n'y avait point de vagues, quelques petits flots seulement moutonnaient de place en place. Mais soudain, au loin, devant nous, je vis l'eau toute blanche, blanche comme si on étendait un drap par-dessus. Cela venait, se rapprochait, accourait, et lorsque cette ligne cotonneuse ne fut plus qu'à quelques centaines de mètres de nous, toute la voilure du yacht reçut brusquement une grande secousse du vent qui semblait galoper sur la surface de la mer, rageur et furieux, en lui plumant le flanc comme une main plumerait le ventre d'un cygne. Et tout ce duvet arraché de l'eau, cet épiderme d'écume, voltigeait, s'envolait, s'éparpillait sous l'attaque invisible et sifflante de la bourrasque. Nous aussi, couchés sur le côté, le bordage noyé dans le flot clapoteux qui montait sur le pont, les haubans tendus, la mâture craquant, nous partîmes d'une course affolée, gagnée par un vertige, par une furie de vitesse. Et c'est vraiment une ivresse unique, inimaginablement exaltante, de tenir en ses deux mains, avec tous ses muscles tendus depuis le jarret jusqu'au cou, la longue barre de fer qui conduit à travers les rafales cette bête emportée et inerte, docile et sans vie, faite de toile et de bois. Cette fureur de l'air ne dura guère que trois quarts d'heure. Et tout à coup, lorsque la Méditerranée eut repris sa belle teinte bleue, il me sembla, tant l'atmosphère devint douce subitement, que l'humeur du ciel s'apaisait. C'était une colère tombée, la fin d'une matinée revêche. Et le rire joyeux du soleil se répandit largement dans l'espace. Nous approchions du cap où j'aperçus, à l'extrémité, au pied de la côte escarpée, dans une trouée apparue sans accès, une église et trois maisons. Qui demeure là, mon Dieu? Que peuvent faire ces gens? Comment communiquent-ils avec les autres vivants, sinon par un des deux petits canaux tirés sur leur plage étroite? Voici la pointe doublée. La côte continue jusqu'à Porto Venere, à l'entrée du golfe de la Spezia. Toute cette partie du rivage italien est incomparablement séduisante. Dans une baie large et profonde, ouverte devant nous, on entrevoit Santa Margherita, puis Rapallo, Chiavari. Plus loin, Sestri Levante. Le yacht, ayant viré de bord, glissait à deux encablures des rochers. Et voilà qu'au bout de ce cap, que nous finissions à peine de contourner, on découvre soudain une gorge où entre la mer. Une gorge cachée, presque introuvable, pleine d'arbres, de sapins, d'oliviers, de châtaigniers. Un tout petit village, Portofino, se développe en demi-lune autour de ce calme bassin. Nous traversons lentement le passage étroit qui relie à la grande mer ce ravissant port naturel, et nous pénétrons dans ce cirque de maisons couronné par un bois d'un vert puissant et frais, reflétés l'un et l'autre dans le miroir d'eau tranquille et rond où semblent dormir quelques barques de pêche. Une d'elles vient à nous, montée par un vieil homme. Il nous salue, nous souhaite la bienvenue, indique le mouillage, prend une amarre pour la porter à terre, revient offrir ses services, ses conseils, tout ce qu'il nous plaira de lui demander, nous fait enfin les honneurs de ce hameau de pêche. C'est le maître de port. Jamais, peut-être, je n'ai senti une impression de béatitude comparable à celle de l'entrée dans cette crique verte, et un sentiment de repos, d'apaisement, d'arrêt de l'agitation vaine où se débat la vie, plus fort et plus soulageant que celui qui m'a saisi quand le bruit de l'ancre tombant eût dit à tout mon être ravi que nous étions fixés là. Depuis 8 jours, je rame. Le yacht demeure immobile au milieu de la rade, minuscule et tranquille. Et moi, je vais rôder dans mon canot, le long des côtes, dans les grottes où grogne la mer au fond des trous invisibles, et autour des îlots, découpés et bizarres, qu'elle mouille de baisers sans fin à chacun de ses soulèvements. Et sur les écueils à fleur d'eau, qui portent des crinières d'herbes marines. J'aime voir flotter sous moi, dans les ondulations de la vague insensible, ces longues plantes rouges ou vertes, où se mêlent, où se cachent, où glissent les immenses familles à peine closes des jeunes poissons. On dirait des semences d'aiguilles d'argent qui viennent et qui nagent. Quand je relève les yeux sur les rochers du rivage, j'y aperçois des groupes de gamins nus, au cœur bruni, étonnés de ce rôdeur. Ils sont innombrables aussi, comme une autre progéniture de la mer, comme une tribu de jeunes tritons, nés d'hier, qui s'ébattent et grimpent aux rives de granit pour boire un peu l'air de l'espace. On en trouve cachés dans toutes les crevasses, on en aperçoit debout sur les pointes, dessinant dans le ciel italien leurs formes jolies et frêles de statuettes de bronze. D'autres, assis, les jambes pendantes, au bord des grosses pierres, se reposent entre deux plongeons. Nous avons quitté Portofino pour un séjour à Santa Margherita. Ce n'est point un port, mais un fond de golfe un peu abrité par un môle. Ici, la terre est tellement captivante qu'elle fait presque oublier la mer. La ville est abritée par l'angle creux des deux montagnes, un vallon les sépare qui va vers Gênes. Sur ces deux côtes, d'innombrables petits chemins entre deux murs de pierre, hauts d'un mètre environ, se croisent, montent et descendent, vont et viennent, étroits, pierreux, en ravins et en escaliers, et séparent d'innombrables champs, ou plutôt des jardins d'oliviers et de figuiers, qu'enguirlandent des pampres rouges. À travers les feuillages brûlés des vignes grimpées dans les arbres, on aperçoit à perte de vue la mer bleue, des caps rouges, des villages blancs, des bois de sapins sur les pentes et les grands sommets de granit gris. Devant les maisons, rencontrées de place en place, les femmes font de la dentelle. Dans tout ce pays, d'ailleurs, on n'aperçoit guère une porte où ne soient assises deux ou trois de ces ouvrières, travaillant à l'ouvrage héréditaire, et maniant de leurs doigts légers les nombreux fils blancs et noirs, où pendent et dansent dans un sautillement éternel de courts morceaux de bois jaune. Elles sont souvent jolies, grandes et d'allure fière, mais négligées, sans toilette et sans coquetterie. Beaucoup conservent encore des traces du sang sarrasin. Un jour, au coin d'une rue de hameau, une d'elles passa près de moi qui me laissa l'émotion de la plus surprenante beauté que j'ai rencontrée peut-être. Sous une hotte lourde de cheveux sombres qui s'envolait autour du front, dans un désordre dédaigneux et hâtif, elle avait une figure ovale et brune d'orientale, de fille des morts dont elle gardait l'ancestrale démarche. Mais le soleil des Florentines lui avait fait une peau aux lueurs d'or. Les yeux, quels yeux, longs et d'un noir impénétrable, semblaient glisser une caresse sans regard entre des cils tellement pressés et grands que je n'en ai jamais vu de pareil. Et la chair autour de ses yeux s'assombrissait si étrangement que si on ne l'eût aperçu en pleine lumière, on eût soupçonné l'artifice des mondaines. Lorsqu'on rencontre, vêtus de haillons, des créatures semblables, que ne peut-on les saisir et les emporter, quand ce ne serait que pour les parer, leur dire qu'elles sont belles et les admirer. Qu'importe qu'elles ne comprennent pas le mystère de notre exaltation, brutes comme toutes les idoles, ensorcelantes comme elles, faites seulement pour être aimées par des cœurs délirants et fêtées par des mots dignes de leur beauté. Si j'avais le choix, cependant, entre la plus belle des créatures vivantes et la femme peinte du Titien que 8 jours plus tard je revoyais dans la salle de la tribune à Florence, je prendrais la femme peinte du Titien. Florence, qui m'appelle comme la ville où j'aurais le plus aimé vivre autrefois, qui a pour mes yeux et pour mon cœur un charme inexprimable, m'attire encore presque mensuellement par cette image de femme couchée, rêve prodigieux d'attrait charnel. Quand je songe à cette cité si pleine de merveilles qu'on rentre à la fin des jours courbaturait d'avoir vu comme un chasseur d'avoir marché, m'apparaît soudain lumineuse au milieu des souvenirs qui jaillissent, cette grande toile longue où se repose cette grande femme, au geste impudique, nue et blonde, éveillée et calme. Puis après elle, après cette évocation de toute la puissance séductrice du corps humain, surgissent, douces et pudiques, des vierges. Celle de Raphaël d'abord, la vierge au chardonneret, la vierge du grand-duc, la vierge à la chaise, d'autres encore, celles des primitifs, aux traits innocents, aux cheveux pâles, idéales et mystiques, et celles des matériels, pleines de santé. Quand on se promène non seulement dans cette ville unique, mais dans tout ce pays, la Toscane, où les hommes de la Renaissance ont jeté des chefs-d'œuvre à pleine main, on se demande avec stupeur ce que fut l'âme exaltée et féconde, ivre de beauté, follement créatrice, de ces générations secouées par un délire artiste. Dans les églises des petites villes, où l'on va, cherchant à voir des choses qui ne sont point indiquées au commun des errants, on découvre sur les murs, au fond des chœurs, des peintures inestimables de ces grands maîtres modestes, qui ne vendaient point leurs toiles dans les Amériques encore inexplorées, et s'en allaient, pauvres, sans espoir de fortune, travaillant pour l'art comme de pieux ouvriers. Et cette race sans défaillance n'a rien laissé d'inférieur. Le même reflet d'impérissable beauté, apparu sous le pinceau des peintres, sous le ciseau des sculpteurs, s'agrandit en lignes de pierre sur la façade des monuments. Les églises et leurs chapelles sont pleines de sculptures de Luca della Robbia, de Donatello, de Michel-Ange. Leurs portes de bronze sont de Bonanus ou Jean de Bologne. Lorsqu'on arrive sur la Piazza della Signoria, en face de la Loggia dei Lanzi, on aperçoit ensemble, sous le même portique, l'enlèvement des Sabines et Hercule terrassant le centaure Nessus de Jean de Bologne. Percé avec la tête de Méduse de Benvenuto Cellini, Judith et Holoferne de Donatello. Il abritait aussi, il y a quelques années seulement, le David de Michel-Ange. Mais plus on est grisé, plus on est conquis par la séduction de ce voyage dans une forêt d'œuvres d'art, plus on se sent aussi envahi par un bizarre sentiment de malaise qui se mêle bientôt à la joie de voir. Il provient de l'étonnant contraste de la foule moderne, si banale, si ignorante de ce qu'elle regarde avec les lieux qu'elle habite. On sent que l'âme délicate, hautaine et raffinée du vieux peuple disparu qui couvrit ce sol de chef-d'œuvre, n'agite plus les têtes à chapeau couleur chocolat, n'anime point les yeux indifférents, n'exalte plus les désirs vulgaires de cette population sans rêve. En revenant vers la côte, je me suis arrêté dans Pise pour revoir aussi la place du Dôme. Qui pourra jamais expliquer le charme pénétrant et triste de certaines villes presque défuntes? Pise est une de celles-là. À peine entré dedans, on s'y sent à l'âme une longueur mélancolique, une envie impuissante de partir ou de rester, une nonchalante envie de fuir et de goûter indéfiniment la douceur morne de son air, de son ciel, de ses maisons, de ces rues qu'habite la plus calme, la plus morne, la plus silencieuse des populations. La vie semble sortie d'elle comme la mer qui s'en est éloignée, enterrant son port jadis souverain, étendant une plaine et faisant pousser une forêt entre la rive nouvelle et la ville abandonnée. L'Arnaud la traverse de son cours jaune qui glisse, doucement onduleux, entre deux hautes murailles supportant les deux principales promenades bordées de maisons, jaunâtres aussi, d'hôtels et de quelques palais modestes. Seul, bâti sur le quai même, coupant net sa ligne sinueuse, la petite chapelle de Santa Maria della Spina appartenant au style français du XVIIIe siècle, dresse juste au-dessus de l'eau son profil ouvragé de reliquaire. On dirait, à la voir ainsi au bord du fleuve, le mignon lavoir gothique de la Bonne Vierge, où les anges viennent laver la nuit tous les oripeaux fripés des madones. Mais par la Via Santa Maria, on va vers la place du Dôme. Pour les hommes que touchent encore la beauté et la puissance mystique des monuments, il n'existe assurément rien sur la terre de plus surprenant et de plus saisissant que cette vaste place herbeuse, cernée par de hauts remparts qui emprisonnent, en leurs attitudes si diverses, le dôme, le Campo Santo, le baptistère et la tour penchée. Quand on arrive au bord de ce champ désert et sauvage, enfermé par de vieilles murailles et où se dressent soudain devant les yeux ces quatre grands êtres de marbre, si imprévus de profil, de couleur, de grâce harmonieuse et superbe, on demeure interdit d'étonnement et troublé d'admiration comme devant le plus rare et le plus grandiose spectacle que l'art humain puisse offrir au regard. Mais c'est le dôme bientôt qui attire et garde toute l'attention par son inexplicable harmonie, la puissance irrésistible de ses proportions et la magnificence de sa façade. C'est une basilique du XIe siècle de style toscan, tout en marbre blanc, avec des incrustations noires et de couleur. On n'éprouve point, en face de cette perfection de l'architecture romane-italienne, la stupeur qu'imposent à l'âme certaines cathédrales gothiques par leur élévation hardie, l'élégance de leurs tours et de leurs clochetons, toute la dentelle de pierre dont elles sont enveloppées, et cette disproportion géante de leur taille avec leurs pieds. Mais on demeure tellement surpris et captivé par les irréprochables proportions, par le charme intraduisible des lignes, des formes et de la façade décorée en bas de pilastres reliés par des arcades, en haut de quatre galeries de colonnettes plus petites d'étage en étage, que la séduction de ce monument reste en nous, comme celle d'un poème admirable, comme une émotion trouvée. Rien ne sert de décrire ces choses, il faut les voir, et les voir sur leur ciel, sur ce ciel classique, d'un bleu spécial, où les nuages lents et roulés à l'horizon, en masses argentées, semblent copiés par la nature sur les tableaux des peintres toscans. Car ces vieux artistes étaient des réalistes, tout imprégnés de l'atmosphère italienne. Et cela seulement demeure de faux ouvriers d'art qui les ont imités sous le soleil français. Derrière la cathédrale, le campanile, éternellement penché comme s'il allait tomber, gêne ironiquement le sens de l'équilibre que nous portons en nous. Et en face d'elle, le baptistère arrondit sa haute coupole conique devant la porte du Campo Santo. En ce cimetière antique, dont les fresques sont classées comme des peintures d'un intérêt capital, s'allonge un cloître délicieux, d'une grâce pénétrante et triste, au milieu duquel deux antiques tilleuls cachent sous leur robe de verdure une telle quantité de bois mort qu'ils font au souffle du vent un bruit étrange d'ossements heurtés. Les jours passent, l'été touche à sa fin. Je veux visiter encore un pays éloigné, où d'autres hommes ont laissé des souvenirs plus effacés, mais éternels aussi. Cela vraiment sont les seuls qui ont su doter leur patrie d'une exposition universelle qu'on reviendra voir dans toute la suite des siècles.